J'aimerais vous demander par rapport à l'actualité en ce moment, si vous étiez héritier de Johnny Hallyday, comment vous seriez aujourd'hui? Ah, Angela dit, oh là là, c'est que c'est bien. Jude, qu'est-ce qu'il dit? En procès? D'accord. Non, mais on retient ça parce qu'on va continuer, c'est tout? Ah, pas sûr d'avoir l'héritage. On retient aussi ça. Au moins, en ce qui me concerne, je me verrais bien avec une Tesla. Quelques Tesla sont les voitures américaines électriques qui roulent très très vite. C'est pas comme les voitures françaises là, mais elles sont très puissantes. Et puis passer un séjour en Sibérie. Oui, ah oui, en Sibérie. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre pour vous, oui, mais c'est bien d'aller vivre en Sibérie. J'ai fait 25 ans sous le soleil. Pourquoi ne pas aller vivre dans le froid extrême, et puis ce serait bien. Bon, je sais que Stony ne me suivra pas, mais Johan et Eleonora, ils auront envie de vivre l'expérience avec moi, passer quelques jours là-bas, parce que sachant que le tourisme là-bas est très cher, quoi. C'est pas donné. Voilà un peu des choses que, voilà, si j'étais héritier de Johnny Hallyday, que je ferais, je m'amuserais. Bon, Tesla, je ne la garderais pas longtemps, juste 2-3 mois, et après, bon. En Sibérie, on n'a pas besoin de ça là-bas. Hein. Voilà un peu des choses éphémères auxquelles on pense qui vont disparaître. Hein. La Tesla aussi, elle a des problèmes au niveau informatique. Voilà, ça peut bugger, tout est électrique. Comment on appelle ça? En Sibérie, chez nous en Sibérie, tout se fait de manière instantanée. Je suivais un documentaire. Une personne n'avait qu'à jeter de l'eau en l'air. Dans la seconde qui suit, l'eau était gelée. Le poisson qu'il pêchait, qu'il faisait sortir, dans les quelques secondes, le poisson était congelé, quoi. Il mourait, il était congelé de suite. Et moi, est-ce que là-bas, dans ce désert froid, je pourrais tenir? Mais pour moi, c'est une expérience, quelque chose à vivre, quoi. Mais je voudrais également vous parler d'une autre rencontre particulière de Jésus et Nicodème. Lorsqu'on pense souvent à ce passage, on se dit, bon, c'est pour des nouveaux convertis, mais ça s'adresse aussi bien aux nouveaux convertis qu'à ceux qui sont chrétiens depuis des siècles, des années-lumière, ça s'adresse à tout le monde. Je vais nous lire ce passage. Alors, c'est dans Jean 3, 1 à 12. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors, dans cet échange entre Jésus et Nicodème, il y a deux questions. La première, comment naître de nouveau? Et Jésus, lorsqu'il échange avec Nicodème à ce sujet, il lui rappelle, en tant que docteur de la loi, des vérités qui avaient été déjà énumérées, annoncées par les prophètes, par Jérémie, qui avait parlé de la nouvelle naissance, et Ézéchiel aussi. On va lire Ézéchiel, qui parle de la nouvelle naissance à ce sujet. Ézéchiel, voilà ce qu'il dit. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dans Ézéchiel, lorsqu'il annonce l'œuvre du Messie dans chacune de nos vies, il lui présente un changement intérieur et radical de toute personne qui se retournera vers Dieu, qui va appeler Dieu au secours. Et lorsqu'on lit ces quatre versets, Dieu, quand il parle, il dit « Je ferai, je vous donnerai, je mettrai la nouvelle naissance et la volonté et l'œuvre de Dieu sur nous. Je mettrai sur vous mon esprit. » C'est déjà la volonté de Dieu. Il s'adresse à un docteur qui pense que parce que toutes ses connaissances, parce que c'est un chef au milieu du Sanhédrin, que ce sont ses connaissances qui vont le rapprocher de Dieu. Mais Jésus lui fait comprendre clairement que c'est la volonté de Dieu de transformer radicalement l'être humain. Et il n'y a que Dieu pour le faire. Et Dieu seulement. Aussi, ça met de côté tout ce que l'on aurait pu apprendre en philosophie de Socrate sur la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Ce n'est pas cela ici. C'est le Dieu créateur qui transforme, qui change les vies, qui va au plus profond de nous-mêmes. Pour nous changer, pour nous façonner à son image, comme il le voudrait. Il nous parle de son Saint-Esprit. Et Jacques, il parle d'engendrer, que c'est Dieu qui nous engendre par l'action du Saint-Esprit. Je vais nous lire ce passage. Je me suis trompé pour vous. Alors Jacques dit ceci. Il, en parlant de Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures, les premiers de toute la création. Nous d'abord. Vous imaginez pour ceux qui ont un gazon, qui ont tendu la pelouse récemment et puis qui ont jeté la pelouse qui a été tendue et puis voilà qui a été jetée, ou encore un objet qu'on a mis dans la poubelle. Non, Dieu, il nous a régénérés. Et il n'y a que Dieu pour le faire. Dans toute la création, il n'y a que nous, hommes, qu'il a choisis. Il n'a pas choisi autre chose dans la création, c'est nous. Il se sacrifie pour nous. Et lorsque j'ai pris cet exemple de ce qui se passe dans la famille Hallyday, le père est mort, il est parti, c'est fini. Jésus-Christ, il est parti et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il nous rappelle encore le Saint-Esprit qui vient en nous, qui va nous accompagner, qui va nous conduire. Et petit à petit, dans ce texte, nous voyons également la marche du chrétien, de sa nouvelle conversion, dans sa marche qui est progressive. Il y a le Saint-Esprit qui est avec lui et qui l'amène petit à petit à comprendre les choses de Dieu. Il est parti, les langues se délient, et chacun veut retirer l'héritage de son côté. Jésus-Christ est parti, il nous laisse le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous façonne, qui nous enseigne la vérité, la parole de Dieu, et qui nous transforme continuellement pour nous amener jusqu'à la sanctification. Et l'objectif également dans cette marche, c'est de ressembler à Christ, qui est notre modèle. Johnny, en tant que père, il a laissé des enfants. Les enfants ont tendance à ressembler au père, à faire ce que le père veut. Ça, je parle humainement parlant. Mais là, c'est un peu comme cette famille n'a jamais été unie, mais c'est complètement disloqué, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de procès. Voilà, ça va en procès. Mais le Saint-Esprit en nous, nous façonne, même si Jésus-Christ n'est plus là. Il nous façonne, cela entraîne le fait également que nous avons eu la victoire sur le péché. La vieille nature a été crucifiée à la croix. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle création. Nicodème, quand il entend toutes ces choses, qu'il y a l'Esprit qui nous façonne, qui nous transforme, et nous devenons une nouvelle création, ça répond à sa question, mais comment est-ce possible? Peut-être qu'il avait aussi entendu toute la philosophie qui revenait de la Grèce, etc. Mais pour lui, c'était incompréhensible. Mais pourtant, il avait aussi lu Jérémie, il avait également lu Ézéchiel. Mais ce jour-là, ses yeux se sont ouverts. L'Esprit de Dieu qui nous façonne, qui nous transforme. Nous avons la victoire sur le péché. Lorsque nous sommes une nouvelle créature, nous avons également une vie de prière. On peut le voir dans le livre des Actes, il y a ce refrain qui revient. Ils se retrouvaient chaque jour pour prier, pour être enseignés, pour partager ensemble le pain. Une vie de prière, on peut également le voir dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'adresse à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. On peut le voir également dans Psaume 1. L'homme heureux, c'est celui qui est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau qui puise ses sources. Voilà la vie de quelqu'un qui a été transformé par le Saint-Esprit. Victoire sur le péché, une vie de prière, une marche progressive pour atteindre la stature parfaite de Christ. Et tout cela par le Saint-Esprit. L'autre question qui ressort de cet échange, parce que Jésus lui dit que si l'homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut comprendre et il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc si nous sommes nés de nouveau, Jésus l'emmène également à comprendre quelque chose. C'est qu'on est, comme pour reprendre l'expression de Jacques, engendrés. Nous sommes engendrés de ce fait. Notre ascendance est notre Père. Dieu est notre Père. Il devait se poser pas mal de questions. Lui, en tant que docteur, c'est possible que l'être humain puisse être fils de Dieu. Mais effectivement, nous le sommes. Fils de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, nous sommes des fils de Dieu. Et là, quelle joie ça vous fait de savoir que vous êtes fils de Dieu. La joie peut-être est beaucoup plus grande de savoir que vous êtes fils de Johnny ou héritier de quelqu'un d'autre encore, de Donald Trump. Mais vous êtes fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Darwin, il a dit que nous sommes descendants du singe. Lui, il est mort. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes fils de Dieu, engendrés par Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Pour un juif à cette époque, de savoir que ce Dieu-là qui nous a choisis, moi je suis son fils, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, toutes ces étoiles dans le ciel que je n'arrive pas à compter, c'est lui qui les a faites et moi je suis son fils. Pour lui, c'est quelque chose d'agréable, peut-être, mais qu'il a quand même du mal à comprendre. Mais par la suite, on voit qu'il a accepté les enseignements de Christ, il s'est converti. Merci. Mais être un fils de Dieu, je vais nous lire un passage. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». Il y a cette expression d'affinité « Abba Père ». En français, la langue française est divisée en trois segments. Le langage enfantin, le langage courant et le langage littéraire. Dans le langage enfantin, on dit caca, pipi, maman. Et cette expression papa, j'en ai pas là, mais récemment, il me parlait de son père. Il me disait mon papa. Et pourtant, Jean a plus de 50 ans, il parle encore de mon papa. La filiation qui reste, elle est tellement forte qu'on se sent beaucoup plus proche de la personne qui nous a engendrés, papa. Quel que soit l'âge qu'il a, on va toujours l'appeler papa. Et ici, il garde cette expression Abba Père, que nous pouvons dire à Dieu Abba Père, parce que c'est notre Père. C'est vraiment notre Père. Et un autre passage. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là encore, cela se fait par le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit qui a été régénéré que nous sommes enfants de Dieu. Pour certains, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui aiment bien manger du cochon, certaines parties sont estampillées. En fait, cette estampille, ils l'ont depuis, je ne sais pas, mais ils sont encore vivants. Et cette estampille, elle ne s'efface pas. Elle reste telle qu'elle. Et ce sceau, vous l'avez. Aujourd'hui, que vous connaissez votre père ou pas, humainement parlant, que vous le connaissez ou pas, mais si on fait des analyses dans votre sang, on va retrouver les mêmes gènes que celui qui vous a engendré, votre père. Il y a ce lien qui est très fort. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour toutes ces personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, l'amour de Dieu pour les fils de Dieu. Dans ce royaume où nous sommes engendrés par le Saint-Esprit, nous réalisons quelque chose, que nous sommes fils de Dieu. Et parce que nous sommes des fils de Dieu, il nous appelle à œuvrer, à travailler avec lui. D'abord dans le jardin d'Éden, il a tout fait et il nous a mis au centre. Ensuite, là, dans cette nouvelle création, il a fait des fils ici et là, un peu partout dans le monde. Et en fait, ce ne sont pas des personnes isolées, mais c'est l'Église. Donc Christ est la tête. Et il nous fait participer à cette œuvre. Dans l'Église, de nous considérer comme frères et sœurs, de manifester l'amour les uns vis-à-vis des autres. Dans cette œuvre encore, il nous appelle à être des ambassadeurs de ce qu'il a fait dans notre vie. Comment il nous a changé, comment il nous a transformé, être des ambassadeurs, des témoins. Il nous envoie dans le monde. Et dans l'Église qu'il construit, à chacun, il a donné des dons, des talents différents pour l'édification de l'Église. Et pour revenir encore à notre exemple, qui est d'actualité, s'il y avait des personnes au milieu de nous qui étaient héritiers de M. Smet, Johnny Hallyday, transformés par le Saint-Esprit, les enfants n'auraient pas réagi de la sorte. Enfin, la famille n'aurait pas réagi de la sorte. Transformés par le Saint-Esprit, les chrétiens ne se sont pas dit: ben, moi, j'ai vu Jésus, eux, ils ne l'ont pas vu, mais c'est chacun pour soi. comme le dit l'adage, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais le Saint-Esprit nous amène à vivre ensemble, à nous pardonner, à manifester de l'amour les uns vis-à-vis des autres. Et cette famille, autour d'un testament qui les déchire au lieu de les unir. Au travers de cet héritage, il en sort des querelles, des disputes, de la haine, de la rancœur. Mais vous, en tant que fils de Dieu, vous avez entre vos mains un testament qui atteste, qui certifie et estampillé dans vos vies par le Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et il ne vous a pas déshérité. Au contraire, il est venu vous chercher. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant « Saint est saint ». Quand nous lisons l'Apocalypse, lorsque Dieu viendra chercher ses enfants, ses fils et ses filles, au ciel, les anges entonneront des chants, des cantiques, mais avec ses fils et leurs filles, c'est-à-dire les chrétiens. Vous vous imaginez ça? Il n'y aura pas des singes, selon Darwin, mais ce sont ses fils et ses filles qu'il a engendrés, les personnes qu'il a transformées par le Saint-Esprit, qui sont reconnus comme étant fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Je vais terminer par ce passage. Qui rappelle ce que nous sommes. Nous qui avons accepté Christ. Nous qui nous laissons continuellement transformer par le Saint-Esprit. Nous qui avons été appelés à ressembler à Christ, à atteindre la stature parfaite, toujours par le Saint-Esprit. Il est dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte des hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je vais prier. Notre Père,